Sur place ou à emporter, voici le nom de l'exposition accueillie à la médiathèque Jules Verne de la Ricamari jusqu'au 29 octobre. Cette exposition de Catherine Gauthier, Sandrine Binou et Dan-Charles Dahan s'inscrit dans le cadre de Trace 2022, la biennale sur l'histoire, les mémoires et l'actualité des migrations en Auvergne-Rhône-Alpes qui se tiendra du 15 octobre au 13 décembre sur tout le territoire. Radio Ondaine et Radio Dio vous proposent aujourd'hui d'écouter une table ronde réalisée à la médiathèque Jules Verne de la Ricamari autour de cette exposition sur place ou à emporter.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur la 90.9 de Radio Ondaine à Firminy, le 89.5 de Radio Dio à Saint-Étienne. Pour cette émission spéciale, on précise de suite les choses, cette émission est enregistrée en direct ou quasi de la Ricamari. Nous sommes ici à la médiathèque qu'on remercie pour son accueil. Nous sommes là pour une émission qui préaugure en quelque sorte un rendez-vous régional qui est la Biennale Trace qui se tient en cette année 2022, qui est un rendez-vous tous les deux ans comme son titre biennale l'indique, qui porte autour de l'actualité et de l'histoire des migrations, qui va se dérouler du 15 octobre jusqu'au 15 décembre de cette fin d'année. Mais nous sommes aujourd'hui le 21 septembre 2022, heure et jour à laquelle nous enregistrons cette émission, il est 18h30 environ. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de cette Biennale Trace, un projet que nous allons mettre à l'honneur aujourd'hui, qui est un projet porté par Catherine Gauthier, qui est ici avec nous. Catherine, bonjour.
Bonjour.
Sociologue qu'on connaît bien sur nos antennes, pour parler de ce projet dont on a déjà parlé sur nos antennes, un projet en cours, étalé sur plusieurs années, qui porte sur les kebabs. Rue des kebabs, c'est le titre d'un court film documentaire. Mm-hmm. Alors c'est un travail d'enquête sociologique, on va le préciser, qui s'appuie sur différents matériaux, à la fois audio, on va l'entendre durant cette émission, à la fois vidéo, et puis un travail d'enquête
photographique.
Et puis également toute cette matière que l'on connaît en sociologie qui porte sur des entretiens nombreux que tu as pu réaliser. Mm-hmm. Une nouvelle étape de travail après ce court premier film Rue des Kebabs. Le projet se poursuit. Une exposition va être installée et visible ici à la médiathèque de la Ricamari du 4 octobre pour une quinzaine de jours. Pour même tout le mois d'octobre, travail justement qui va faire la
rétrospective de l'ensemble des matériaux récoltés lors de ce programme de recherche et de ce travail audiovisuel.
Voilà, tu vas nous le représenter d'ici un instant, mais dans le cadre de cette exposition, de la projection de ce film, du prochain aussi à venir, puisqu'après un cours d'une dizaine de minutes, c'est un plus long format qui va être réalisé, que tu es en train de finaliser, bouclé.
Oui, c'est ça.
Qui
oui.
va s'appeler
sur place
après Rue des Kebabs,
sur place ou à emporter.
Voilà. Et qui sera visible ici même à la médiathèque, et puis en d'autres lieux, dans le cadre de cette Biennale Trace, donc en d'autres villes, puisque ton travail et cette enquête portent justement sur différentes villes, moyennes, plus importantes, milieu urbain, milieu rural. Tu vas nous présenter tout cela. L'idée était de le présenter et de l'interroger quelque part ici à la Ricamari, parce que la ville s'y prête aussi, au-delà de l'accueil de ce travail en cours. Alors pour ça, une table ronde proposée avec différents intervenants ici au micro. On va faire un petit tour en partant précisément de droite à gauche ici au plateau. Alan Fontaine, bonjour Alan.
Bonjour, je m'appelle Alan, j'ai 14 ans.
Un jeune habitant. Tu habites donc la Ricamari,
ouais.
Un Ricamandois. Hein, c'est ça. Habitant de toujours.
Non, ça fait deux ans que j'habite ici.
Ok. Donc jeune habitant, vraiment.
Ouais.
Tu découvertes aussi encore de la ville, peut-être. Et tu es par contre scolarisé ici à la Ricamari.
Ouais, je suis au collège Jules Vallès.
Collège Jules Vallès. En quelle année pour
faire troisième.
En troisième. Fin de cursus collège donc. Merci Alan d'être avec nous. Tu es aussi ici au titre de membre actif du Pôle Jeune, qui est représenté aussi ici. Juste quelques mots sur le Pôle Jeune et de comment tu le pratiques et de quelle manière peut-être tu t'y investis.
Le Pôle Jeune, je trouve que c'est bien, on fait quelques sorties, on s'amuse dedans et c'est tout.
C'est à la fois un lieu d'accueil, et puis un lieu de projet et de proposition de loisirs et autres. Merci Alan. À tes côtés, Virginie Sanchez. Bonsoir.
Bonjour, bonsoir.
Virginie qui représente le CCAS, comme l'on dit dans de nombreuses communes, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale. Et quelle est votre mission au sein du CCAS précisément ?
Alors je suis en direction du CCAS de l'Arrêt Camari, donc service social. Et le CCAS, l'équipe du CCAS est formée aussi par les crèches, la halte garderie, la résidence l'Arrêt Camière, le service social Paul Senior, un service social aussi pour les plus jeunes, et ainsi que le dispositif de réussite éducative, qui est un dispositif d'accompagnement des jeunes de 2 à 16 ans rencontrant des difficultés diverses et variées.
Très bien, donc vous connaissez bien ici les personnes présentes au sein de cette médiathèque.
Alors je suis en poste depuis 2017, donc... L'Arrêt Camari reste un petit village, on finit pour tous se connaître.
Et est-ce que vous résidez dans ce petit village ?
Non, je ne réside pas dans ce
petit village. En dehors de l'Arrêt Camari, un lieu de travail. Merci Virginie. Merci. À vos côtés, eh bien, comme l'ont dit le premier magistrat de cette commune, le maire de la ville. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir, Cyril Bonnefoy. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous présentez au-delà d'être maire de cette commune ?
Bah, écoutez, je suis un habitant ricamandois depuis très très longtemps, depuis les années 90. Je suis infirmier depuis 30 ans à l'hôpital de Firminy. J'ai été responsable syndical et puis maire de la ville depuis 4 ans, après avoir exercé plusieurs mandats. Donc j'avais été élu à la jeunesse, mais avant qu'Alan arrive. J'avais été élu à l'éducation, élu au développement durable, donc à tout ce toutes les questions qui touchent à l'environnement. Et puis je suis assez sensible à toutes les questions qui entourent la société de manière générale. Ça fait partie un petit peu de mon ADN d'engagement. Voilà.
Donc un premier mandat de maire, mais d'autres mandats de conseiller.
Ça fait 4 ans que je suis maire. Le précédent maire m'avait passé le relais en court mandat. Donc 4 ans, 4 ans et demi. Voilà. Mais entre-temps, il y a eu le Covid, donc vous ne m'avez peut-être pas toujours vu comme maire.
Merci en tout cas Cyril Bonnefoy d'être avec nous. Et puis enfin, dernière intervenante, Evelyne Rivaton. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors, je me présente, Evelyne Rivaton. Moi, je suis native de l'Arrêt Camari. Je suis née à l'Arrêt Camari et j'aime bien ma ville.
Vous l'aimez bien et du coup, vous l'investissez à plusieurs titres, plusieurs niveaux. En tout cas, vous n'êtes pas insensible à tout ce qui touche à l'activité ou aux activités de cette commune.
Oui, quand il faut agir, eh ben, on agit. Quand on voit quelqu'un en difficulté, eh ben, on le signale. Et puis voilà, c'est ça, être citoyenne, quoi.
Très bien, merci également à vous d'être avec nous. Alors voilà pour le panel représentatif des interventions de ce soir. Tout cela donc avec, on le rappelle, eh bien en focus la question des kebabs, rue des kebabs. C'est le titre de ce projet, Catherine, que tu conduis depuis déjà quelques temps. Alors là aussi, façon de commencer par le commencement, je pense que pour aussi l'ensemble de l'assistance présente et des intervenants et intervenantes, il serait bon de représenter aussi ce travail d'enquête que tu mènes autour des kebabs, qui va nous servir ici, ce soir, aussi d'angle d'attaque, mais avec diverses déclinaisons possibles, parce que finalement, la question kebab est une entrée ô combien précieuse et intéressante pour aborder des questions sociologiques telles que tu le travailles en tant que sociologue, mais aussi des questions économiques, des questions sociales et autres.
Et des questions urbaines.
Et urbaines.
Alors, effectivement, en tant que sociologue, moi, je me suis d'abord intéressée beaucoup à la question de l'immigration dans mes études et puis ma thèse, etc. Et la question de l'immigration prise sous l'angle de l'espace, c'est-à-dire déjà, j'avais pour idée à l'époque de travailler la question de l'immigration à travers la manière dont on prend place dans la ville, en travaillant sur la place du pont à Lyon. Et puis ensuite, pour ma thèse, j'ai travaillé sur essayer de comprendre quels étaient ce temps et cet espace particulier que les Marocains traversent pour rejoindre leur pays d'origine. Donc c'était sur la route, en fait, qui reliait l'Europe de l'Ouest, mais surtout la France, au Maroc. Et voilà. Et donc, très naturellement, en travaillant sur cette question, j'ai été amenée à m'intéresser à la question du commerce. Donc, bien sûr, sur la place du Pont, mais aussi dans le cadre de ces circulations. C'était d'abord le commerce du transport, avec les agences d'autocars, et puis aussi tous ces commerces qui touchent de près ou de loin la question de ces navettes, à travers les achats qu'on fait avant de partir au pays pour ramener des marchandises à sa famille, mais aussi tous les endroits où on s'arrête lors du voyage pour se restaurer, boire un coup, etc. Et par ricochet, j'allais dire, c'est aussi toute l'activité économique et commerciale qui peut graviter autour des pôles de cet espace migratoire. Donc, les places populaires, les quartiers populaires dans lesquels on habite de part et d'autre de ces circulations. Et donc, c'est après quelques détours de recherche au début de ma carrière, je me suis à nouveau intéressée à la question du commerce et, pour faire plus large, des espaces publics en travaillant sur les cafés populaires à Saint-Étienne. Et ça avait été l'objet d'un premier film. Alors, en fait, j'en avais fait un précédemment sur la question des mémoires des mineurs maghrébins à Saint-Étienne. Bon. Et donc, pour rester sur cette question commerciale, la question des cafés qui m'était présentée justement comme un lieu d'accueil et un lieu d'insertion, de compréhension, de guidage dans la ville pour des gens qui viennent de l'étranger. Alors, pour les gens qui viennent de la Haute-Loire, d'abord, dans un premier temps, dans l'histoire de Saint-Étienne, puis ensuite, des différentes vagues migratoires, les gens se présentaient dans les cafés dont ils avaient l'adresse sur un petit bout de papier en arrivant au pays. Et là, ils trouvaient des gens qui étaient de la même origine qu'eux, du même village, ou des gens qui parlaient la même langue et qui allaient leur indiquer où manger, où se loger, où trouver du travail. Et en faisant ce travail sur les cafés, le premier constat, c'était de se dire qu'on était en train de tourner une page et que beaucoup de cafés fermaient. C'était dû à la chute de l'activité industrielle en ville. Les activités industrielles se sont déplacées à Saint-Étienne du cœur de ville, enfin de l'intérieur de Saint-Étienne intramuros sur les extérieurs. Donc les cafés ont moins d'ouvriers à recevoir. Et puis, voilà, les quartiers évoluent, changent, et puis les modes de vie changent beaucoup. La réglementation change aussi sur la consommation d'alcool, la consommation de tabac, etc. Donc, plein de facteurs qui font que ces cafés ferment. Ça a été un film qui était un petit peu nostalgique parce qu'en même temps, en finissant le film, il y avait plein de cafés qui avaient effectivement fermé. Voilà, et donc, en finissant ce film, je commençais une activité aux côtés d'un collectif d'architectes à Saint-Étienne qui travaillait, et qui travaille toujours d'ailleurs, dans le quartier Saint-Roch, bien connu pour la rue Antoine-Durafour, dans laquelle, qu'on appelle parfois la rue des kebabs. Donc, ma première idée pour servir le projet, pour poser un diagnostic sur le quartier, éclairer la décision des élus et celle des architectes et paysagistes et urbanistes de l'équipe, c'était d'essayer de faire un constat, justement, un peu quantitatif, disons, sur ces kebabs. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'on en parlait beaucoup, mais que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Que beaucoup étaient fermés, qu'on ne savait pas trop s'ils étaient fermés ou ouverts, et qu'en même temps, il y avait des petits commerces qui avaient aussi du mal à vivre. Donc j'ai voulu m'intéresser, dans le cadre des recherches que je pouvais conduire en école d'architecture, donc d'abord à Saint-Étienne, puis aujourd'hui à Clermont, à travers cette question des kebabs, essayer de les mettre dans un contexte qui est celui de la question du petit commerce en centre-ville, dans les quartiers populaires du centre-ville. C'est un peu, finalement, mon lieu de travail de prédilection. Et donc, ça a été le début de cette aventure où j'ai commencé à constituer une équipe autour de moi à l'école d'architecture avec deux jeunes architectes que le thème pouvait intéresser ou des étudiants. Et avec Sandrine Binot, avec qui j'avais déjà travaillé sur les cafés pour le film, et qui est photographe, voilà, qui fait les photos pour moi et qui me sert un peu d'observatrice seconde, qui saisit un peu ce que je vois quand je vais sur le terrain. Donc elle m'accompagne, on va à la rencontre des lieux et des gens et elle fait des photos un peu sous ma, j'allais dire, direction. Elle serait pas contente si je disais ça parce que c'est son œil de photographe qui joue aussi, qui travaille beaucoup, mais ça rend compte de ce que j'observe. Et puis Dan Charles Dahan, qui m'accompagne aussi avec son enregistreur et qui saisit à la fois les ambiances sonores pour aller restituer et les propos qui me sont tenus dans le cadre de cette étude.
Donc un ensemble de collectes audiovisuelles, quoi, finalement.
Voilà, c'est ça. Et que j'essaye de mettre en forme avec les éclairages de la recherche, mais en fait les deux se nourrissent. Hein. C'est complètement des travaux qui se font en parallèle. Et alors, donc le territoire, peut-être. Et puis après, je me tairai un peu. Le territoire, c'est celui du quart nord-ouest, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que ça va. On a d'abord travaillé pour le premier film qui s'appelle Rue des Kebabs sur les trois grandes villes ou grandes villes moyennes, on va dire, que sont Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Montluçon. Donc, on est sur trois départements. Avec des villes qui ont connu des histoires industrielles importantes, des vagues migratoires liées à cette histoire industrielle et une désindustrialisation.
Et donc des enjeux de réaménagement urbain aussi.
Et des enjeux de réaménagement urbain. Et puis, et des enjeux d'intégration des populations, etc. Et ensuite, le deuxième volet du travail porte sur des communes plus modestes qu'on dit en milieu rural, comme la ville d'Ambert, qui est une petite ville et qui s'adosse à une aire culturelle très rurale, mais qui connaît aussi une vie industrielle, il ne faut pas l'oublier, donc cette question industrielle demeure. Et puis la ville de Boin, qui est dans la Loire, et qui elle aussi a connu une histoire industrielle, avec une histoire migratoire moindre qu'à Ambert, mais qui la connaît aujourd'hui puisqu'elle a hébergé des réfugiés sur les dernières années. Et puis on a aussi suivi des camions de kebab, parce que ça existe aussi, dans des petites villes, des petits villages de la région.
Des food trucks, tu veux dire?
Oui, si on veut.
D'accord. Au-delà de du rendu, je dirais, filmique, photographique, sonore, ton travail d'enquête va donner lieu à la rédaction d'un ouvrage, ou parce que là on va être sur des formats donc 10 minutes, 30 minutes, mais l'enquête est conséquente au vu de la masse de travail et de d'enquête en différents lieux, différentes villes, différents territoires.
Oui.
C'est un travail sociologique.
De recherche, donc
de
oui,
recherche.
Donc comme tout chercheur, je dois rendre compte de mes analyses, et même si j'en rends compte par ce biais-là, ça suffit pas pour l'académisme. Effectivement, t'as raison, on doit publier, et puis c'est bien parce que on est aussi sur d'autres registres, et du coup il y a un premier article qui est publié dans ce qu'on appelle le catalogue en ligne qui s'appelle HAL. Qui sont des archives ouvertes dans lesquelles les chercheurs publient leurs travaux. Et donc c'est un article qui a été publié dans le cadre de la suite d'une intervention orale dans un colloque. Donc l'article est visible sur Internet. Et j'ai pour projet de rédiger un ouvrage à partir de 2023, on va dire, parce que ces travaux audiovisuels sont très chronophages, surtout quand en plus on a un Covid au milieu quand même, il faut le dire.
Ça
parce que le travail
choses,
de terrain et la saisie, les prises de vue, tout ça, ça a beaucoup compliqué.
Alors, une simple question aussi, est-ce que tu as travaillé sur les kebabs de cette commune qui est la Ricamari?
Alors non.
Absolument pas. Alors pourquoi le proposer et le présenter ici à la médiathèque? Une simple opportunité, je veux dire, entre guillemets, d'espace d'accueil?
Alors c'est vrai qu'effectivement, depuis le début de ce travail, nous cherchons des lieux d'exposition qui nous donnent vraiment le confort suffisant pour présenter ces photos, qui sont des photos très belles et qui ont besoin d'une scénographie qui puisse tenir un propos. Il y a peu d'écrits dans cette exposition, très peu. Quand même, avec le temps, j'en mets un peu plus parce que c'est aussi un besoin des publics, mais on essaye de dire un maximum de choses par l'image de façon à ce que ça soit accessible au plus grand nombre. C'est ça ma volonté au départ, de faire de l'audiovisuel, de démocratiser la recherche. Donc on cherchait des lieux Alors j'ai tapé à plein de portes. Il y en a plein qui ne se sont pas ouvertes, puis il y en a qui se sont ouvertes. Ce n'est pas tout à fait un hasard, à mon avis, si ça s'ouvre à la Ricamari, parce qu'il y a une appétence pour ces sujets de société et pour peut-être cette manière-là de les aborder. Il y a eu aussi d'autres endroits, comme l'année dernière, le château de Goutelat. C'était un peu insolite, hein. D'ailleurs, j'ai raté mon titre, j'ai appelé ça « Kebab en forêt ». Et puisqu'on est dans le forêt, mais je me suis dit j'aurais dû appeler ça kebab au château, ça aurait été un peu plus voilà, donc on a eu quelques lieux comme ça, mais finalement c'est une question qui met un peu mal à l'aise quand même, cette question des kebabs, c'est un peu du poil à gratter.
Bon, alors en tout cas la question est posée ici à la Ricamari, on va mettre les pieds dans le plat, même s'il n'y en a pas véritablement pour le kebab, quoique, sous forme sandwich essentiellement, bien sûr, mais on va tenter de l'aborder donc. Alors on va évoquer, allez, un premier point, cette émission est construite en trois axes principaux, vous allez le découvrir avec nous. Première entrée, on va être justement sur des propositions sonores, avec précisément le secteur du forêt, alors non pas Amber mais Boin, avec une collecte de sons réalisée sur la place de la mairie, Catherine,
c'est ça.
Avec les anciens du village qui s'expriment sur cette question.
C'est ça, alors je vous retrace un peu l'enquête à Boin. On y va l'année dernière, au mois de septembre, et quand on arrive, le kebab qu'on devait étudier était fermé. Problème de santé, etc. Donc il a fallu pendant une semaine qu'on parle des kebabs, alors même que celui-ci était fermé, que c'était notre lieu principal d'investigation. Et ce qui fait qu'on a fait le tour de la ville, on a interrogé absolument tout le monde sur le sujet et sur la question du commerce dans le centre-ville de Boin. Et là, on est tombé sur un groupe de retraités qui se retrouvaient tous les après-midi sur la place de la mairie.
Jean-Claude.
Je sais pas, j'ai rien dit, j'ai dit mon prénom quand même, Christiane.
Votre prénom, madame, c'est comment ?
Comment ?
Votre prénom, c'est comment ?
Martine.
Martine. Marie-Noël.
Le vrai ou le sous-briquet ?
Ce que vous voulez.
Fanfan.
Carlos.
Carlos.
On blague ?
Et puis il y en a beaucoup qui disparaissent, malheureusement. Ils viennent discuter avec nous. On en a perdu beaucoup, ça.
Ah oui ?
Ah oui, tous ceux qui discutent avec nous, là-bas,
c'est un peu ça. Marie, bon,
c'est Portugais qui habite à Bordeaux.
Ah oui, lui, là, mais c'est vrai, je me souviens plus de lui. Oui.
Vous ne vous souvenez plus de lui, non ? Il venait discuter tout avec nous. Portugais, comment ça, son nom ? Il y a combien qui est mort ? Antonio, ouais.
Antonio,
ça vous mettiez là. Ah, il était gentil.
Ouais, il venait tout le temps avec nous, ce monsieur.
Et oui, c'est ça.
Bon, ils ont fait beaucoup de réparations. Il y a des rues, il n'y avait plus rien, ils ont rénové. Si, si, moi, il ne faut pas dire, sur une quinzaine d'années, là, ils ont fait des trucs qui vaut le coup. Là. Ils ont fait des places, ils ont fait pas mal de trucs, avant il n'y a pas de place.
Ce qui manque à Boin, c'est un hôtel.
Ben, y a rien
en plus centre-ville. Voilà. Un hôtel.
Il
n'y a pas d'hôtel.
Alors les gens qui sont ici,
il y a l'hôtel de police, il y a l'hôtel l'hôtel de ville, mais il n'y a pas d'hôtel pour accueillir les gens. Chose pas normale.
C'est mieux ça, il y a un
hôtel. Parce que Boin, c'est passager. Boin, c'est passager.
Ouais, celui-là qui ont conduit même 25 ans arrière, il y avait beaucoup de bistrots, ça a tout fermé. Et il y avait l'hôtel des voyageurs, ça tournait là. Tout le monde dormait, il y avait le bistrot. Il y a 35 ans, c'est fermé.
Et puis ça met de l'ambiance quand
Ah oui, il y avait du monde. Moi, je trouve qu'il y a moins de monde à Boin.
À Boin, vous enlevez les retraités et les étrangers, il n'y a plus personne.
Mais comme vous dites, c'est
vrai.
Ben,
je
dis la vérité. Les jeunes, la plupart du temps, ils travaillent pas sur Boin. Ça a toujours été comme ça.
Et ben, ils travaillent entre eux. Ça fait la billette et ils travaillent à Rouen.
Voilà. Ouais. Et ben, tous les jeunes d'ici, ils ne trouvent pas de boulot par là. Il n'y a pas de boulot. Là, ils vont travailler ailleurs.
Quand il y a du gazo, les jeunes, ils vont sortir du cocon familial.
Les jeunes,
le blême, il est là.
Ils ont peur parce qu'il n'y a plus de boulot.
Voilà.
François, ma petite fille, là, je vais garder quand même pendant près d'un trimestre chez moi parce qu'elle ne trouvait pas de travail.
Voilà, place de la mairie à Boin, ambiance, sous le clocher. Alors, le point sur... peut-être justement la situation commerciale à la Ricamari. Vous pouvez tous et toutes intervenir, mais peut-être la question se pose davantage, je me tourne vers Cyril et Virginie. Alors, des kebabs, il y en a, un hôtel, je ne sais pas, il en manque un à Boin, mais il y a peut-être bien un hôtel quand même à la Ricamari. On a évoqué ces commerces de proximité, de par le travail passé de Catherine, les cafés nombreux, les épiceries, les cafés nombreux à la Ricamari, je crois que c'était quand même... Un temps donné, est-ce un mythe ou non, mais le nombre de cafés au mètre carré était un record national, me semble-t-il. C'est un mythe. on était pas mal. Emparez-vous du micro, Cyril, pour faire un point précisément, peut-être sur la situation locale.
Alors, la Ricamari, qui est une ville périurbaine à proximité de Saint-Étienne, a été profondément marquée par les déstructurations, j'allais dire, liées à la production minière, sidérurgique de la vallée londaine. Elle a été marquée également par des processus migratoires très nombreux et encore anciens et récents. Et cette ville se bâtit en fait comme une ville polyglotte, avec des visages, des personnes qui dialoguent ou dialoguent pas, mais dialoguent et essayent de vivre et de créer une communauté de vie dans cette réalité qui est parfois vécue de manière assez douloureuse. Concernant le commerce, c'est un commerce polyglotte. Il y a différents styles de commerce. Donc on a un commerce qui est périphérique, comme la plupart des grandes des villes. Aujourd'hui, en périphérie, on a l'ancien rallye, on dira, le casino d'aujourd'hui, qui avec donc une petite galerie marchande et puis d'autres magasins qui sont en périurbain, en périphérie de la ville. Et puis on a un centre-ville qui vit difficilement. Qui est comme dans de très nombreuses villes, qui a du mal à avoir cette mixité d'offres au niveau de l'alimentation, au niveau des commerces. Alors effectivement, sur la Ricamari, il y a des kebabs, il y a des pizzas à emporter, il y a beaucoup d'à emporter, il y a quelques bars qui résistent. Des amicales communautaires ou non, mais enfin elles sont toutes communautaires de fait, puisque il y a les amicales historiques qui font que il y a 7 amicales historiques avec des boules qui s'organisent autour, notamment des lyonnaises et pétanques, et puis toute une activité sportive qui sont autour de ces amicales. Et puis récemment, en centre-ville, il y a eu de très nombreuses amicales, j'allais dire communautaires, qui peuvent être d'origine algérienne, avec certains coins d'Algérie, certains coins de Tunisie, et qui n'offrent pas forcément beaucoup de mélange, certains coins de Turquie, qui n'offrent pas beaucoup de mélange de population. Il n'empêche que ça fait partie et ça compose et ça constitue, ça construit la ville d'aujourd'hui. On a du mal à avoir une offre de commerce, traditionnelle, notamment une boucherie qui a été malheureusement dévastée par des agissements qui sont dénonçables et qui sont insupportables pour la ville. Mais on a du mal à avoir une activité qui soit, organisée de manière traditionnelle. Donc, il y a beaucoup de pas de porte qui sont disponibles, abîmés. C'est un centre-ville qui est abîmé, mais qui a cette polyglotte qui, quand même, fait vivre la ville et puis fait vivre d'une belle façon, la plupart du temps, la ville de la Ricamari. On peut être fier que finalement ce mélange se passe. Les visages se croisent, les dialogues intergénérationnels se passent, les dialogues interculturels se passent plus ou moins bien selon les communautés, parce qu'il y a des migrations récentes qui sont pas encore complètement dans le processus d'intégration, mais ça va venir, on ne désespère pas. Il y a de belles choses qui arrivent. Virginie présentait tous les dispositifs qui existaient dans le cadre en tant que directrice du CCS. On a le dispositif de réussite éducative qui est très riche dans le dialogue intercommunautaire et ça permet de rentrer en contact avec des populations qu'on touchait peu dans les services publics traditionnels. Et ça nous permet d'avoir un rapport avec eux et puis de commencer à ouvrir le dialogue et puis à construire la ville et le pays de demain. Parce que à partir du kebab se pose la question, effectivement, et fort justement, la question de l'intégration et de la mixité et des différentes migrations qu'il y a eu. Certains ne veulent pas le voir. Certains font tout pour l'alimenter. Hein. Je vais citer le nom des confrères de la tribune Le Progrès qui n'offrent que des mariages bien blancs, mais jamais des mariages de mixtes, alors que la vraie vie, c'est des mariages mixtes. Et la vraie vie, c'est des mariages et des visages qui se croisent et qui ne désespèrent pas de vivre ensemble. Et demain, la société, n'en déplaise à tous ceux qui veulent la société qui soit unicommunautaire, elle sera plurielle. Et l'expérience de la Ricamari, ce qu'elle ouvre, c'est cette expérience-là, malgré toutes les douleurs auxquelles on peut être confronté parfois. Puisque la plupart du temps, tout se vit très bien. Le centre-ville est quand même sur un plan commercial un peu abîmé et ça marque la population et ça marque une population, vieillissante qui ne comprend pas ce qui se passe. et qui reste un petit peu comme à Boin, qui reste sur avant il y avait ça. Mm-hmm. Et aujourd'hui la société a changé.
Alors,
c'est difficilement compréhensible pour eux, et ça j'arrive complètement à le comprendre.
Comme à Boin, on est sous le clocher du centre-ville. Des indicateurs, Cyril Bonnefoy, à la fois sociaux et économiques, je dirais, pour le centre-ville de la Récamerie, qui, je crois, est en géographie prioritaire.
La ville, l'ensemble de la ville est en quartier politique de la ville. Donc le quartier du Moncel est en QPV, le centre-ville est en QPV, le quartier de Morembert est en QPV. On a le dispositif de quartier de reconquête républicaine qui rajoute un petit peu une présence policière sur notre commune. Et puis on a également tous les dispositifs qui entourent l'accompagnement scolaire, le dédoublement des classes de grande section, de CP et de CE1. C'est-à-dire que dans les classes de la Récamerie, les enfants donc de grande section de CP et de CE1 sont entre 12 et 15 enfants pour faciliter l'intégration, faciliter le dialogue et faire en sorte qu'il y ait l'accompagnement le plus performant qui soit. La ville fait des choix très nombreux en matière d'intégration. Outre le DRE, on a un pôle jeune, donc la ville a structuré il y a 3 ans à peu près, hein, qui est tout récent. On a des centres de loisirs, on a du temps périscolaire organisé autour du temps scolaire, un travail étroit avec l'ensemble des enseignants de la collectivité de la commune, un travail étroit avec le collège Alan, avec qui on travaille de manière très étroite, très précise. Ouais.
Alors, réaction et appréciation pour Evelyne et Alan, habitants jeunes et moins jeunes, je me permets Evelyne, de la commune. Votre appréciation de la situation commerciale, justement, des offres présentes sur la ville. Comme le disait Cyril Bonnefoy, de nombreuses enseignes ou espaces vacants, des commerces existants, mais peut-être lacunaires sur la commune. Quel est, vous, votre avis comme ça du centre-ville? Alan, tu trouves qu'effectivement ce centre-ville est vieillissant, pas beaucoup de jeunes qui l'occupent, qui l'investissent. Voilà, l'une et l'autre, votre appréciation?
J'ai pas dit ça, il y a beaucoup de jeunes qui investissent ce centre-ville.
Non, mais vous avez juste évoqué une population vieillissante. Voilà, c'était.
Puis ça peut être qu'ils investissent, voilà, économiquement, effectivement, avec des projets.
Moi, je dis que ici, c'est une ville un peu libre, parce qu'il y a un an, j'ai vu qu'à Paris, c'était pas du tout la même chose. C'est une ville encombrée où il y avait beaucoup de personnes. Et ici, je me sens un peu. C'est pas que je peux tout faire, mais c'est que je me sens que je suis moi-même, que il y a des choses que je peux faire ici que je pouvais pas faire à Paris. Il y a des comment dire. Il y a des moments que je peux sortir et qu'il n'y a pas des gens qui viennent vers moi ou des bousculades, des choses comme ça.
Et une ville tranquille, alors,
ouais,
tu veux dire.
Oui, c'est une ville calme.
Et dans laquelle tu te sens bien.
Ouais.
Evelyne?
Oui, moi, je suis bien contente de cette ville. Hein. J'y suis née, donc c'est normal. Je trouve qu'il y a beaucoup de relationnel aussi. Et puis, que les gens évoluent un petit peu, parce que quand on voit quelqu'un qui se fait agresser, on réagit, mais c'est pas la peine de leur crier après, parce que bon, on nous a toujours dit que quand les gens étaient énervés, de calmer le ton et de pas hausser le ton. Moi, c'est ce que je fais quand je vois quelqu'un qui va pas bien dans la rue. Je vais pas le secouer, quoi, je lui parle calmement. Et ça s'arrange.
Au-delà de la question sécuritaire, Evelyne, c'était la question aussi de l'offre commerciale de la ville, de sa population, centre-ville.
Oui, moi j'aimais bien les bars. Je suis honnête.
Il en manque aujourd'hui?
Oui, un petit peu quand même. Mais bon, il y a Sophie, il y a Gilles, il y a. Mais c'est vrai que c'est plus comme avant. C'est pas le même relationnel qu'on avait avant. Quand on allait dans les bars, on nous a interdit de fumer, on nous a interdit de. Enfin bon.
Parfois de faire des concerts.
Et voilà, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et puis il y a des moments, ben, on se lâche un peu. Enfin voilà, il faut lâcher prise.
Virginie, peut-être, vous qui y travaillez mais ne l'habitez pas, cette commune de la Récamerie, et en même temps vous êtes arrivée il y a 5 ans de ça, votre appréciation aussi peut-être de la ville?
Alors mon appréciation, moi je suis arrivée en 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vrai que la réputation à la Récamerie n'était pas. Alors tout le monde, quand on m'a dit mais tu vas là travailler à la Récamerie, c'est pas possible. Ben oui, j'y suis, puis j'y suis encore, je vais rester. J'ai trouvé vraiment une équipe municipale et une équipe au sein du CCS vraiment investie avec plein de choses. Et pour la petite anecdote, à chaque fois qu'on prend une stagiaire qui est de la Ricamarie ou une stagiaire extérieure, nous disent, mais alors là, j'avais même pas connaissance que vous arriviez à faire autant de choses pour la commune. Du coup, moi, alors, concernant le commerce en centre-ville, alors je suis une consommatrice plus des kebabs et puis j'amène mes collègues avec moi. À titre personnel, ce qui est un peu plus, je pense que tout le monde s'est posé la question, c'est le rôle de la femme dans ces espaces. Des fois, on arrive dedans et puis bon, ma collègue, Madame Patouillard, peut le dire avec moi. On arrive dedans, on est souvent entouré d'hommes et c'est des fois un peu difficile, voilà, dans ces espaces. Donc, je pense qu'il doit y avoir des horaires pour les femmes, des horaires pour les hommes, mais bon, en tout cas, nous, on y va pour midi. Après aussi, tout ce qui. Il y a quelqu'un qui va intervenir.
Allez-y.
Vous voulez intervenir ?
Continuez, Virginie.
Ah, je continue, d'accord. Donc ce côté-là, mais on a quand même des commerçants qui sont assez accueillants et qui essayent de avec grand sourire de qu'on se sente à l'aise. Donc c'est vrai qu'on a tendance à plus se prendre à emporter qu'à rester sur place. Voilà. Et après, c'est parfois aussi ce côté un peu aseptisé de l'espace quand vous rentrez où il y a du carrelage jusqu'en haut, tout est blanc. Donc ça, des fois ça fait un peu froid l'accueil, mais sinon il suffit de passer le pas de la porte pour se rendre compte qu'il y a vraiment des choses qui se passent dans ces espaces et nous on retrouve des familles, on retrouve des gens qu'on accompagne et qui veulent nous payer le kebab du coup, mais on n'accepte pas Monsieur le Maire, hein, excusez-nous. on voit qu'il y a quand même une transformation de ces espaces de manière assez positive, en espérant que les femmes, à long terme, on arrivera à trouver un peu plus...
Est-ce que c'est une spécificité, je me pose la question, du kebab, ou est-ce que c'est simplement aussi la question d'autres espaces et de l'espace peut-être aussi public, et les cafés aussi peuvent être associés sur cette question de la masculinisation.
Les cafés, c'est pareil, hein, on ne va pas au café de la Ricamarie non plus, parce qu'effectivement, on n'y va pas, parce qu'il n'y a que des hommes, et on est un peu mal à l'aise, oui, effectivement. Donc, de toute façon, la question de l'égalité... filles, garçons, elles se posent, mais c'est pas que à la Ricamarie, je pense que c'est national.
Alors, en fait, c'est intéressant tout ce que vous dites, parce que ça balaye un peu l'ensemble du sujet. Quand on regarde la question de la dynamique commerciale de nos petites villes aujourd'hui, mais aussi les grandes, on a affaire à une dévitalisation du commerce en rez-de-chaussée, du petit commerce. Dans les centres-villes, hein. Saint-Étienne est bien connue pour ça. Elle a essuyé des articles malheureux dans la presse sur ce sujet. Montluçon, n'en parlons pas. Clermont, qui semble être une ville très dynamique avec des entreprises florissantes, n'échappe pas au problème. Et donc, il y a une vraie problématique de la résistance du petit commerce et du commerce de proximité en centre-ville. Donc, ça n'est pas du tout seulement le fait de la Ricamarie. Et ce qui fait que c'est aussi quelque chose qui intervient en milieu rural, mais les problématiques sont différentes. On pourra peut-être y revenir à la fin de l'émission. Ce que je voulais dire en reprenant un peu la parole, c'est que je parle d'une périphérisation du commerce. Il y a à la fois une périphérisation du commerce, c'est-à-dire que le commerce se déplace du centre vers la périphérie, avec les centres commerciaux notamment. Alors, centres commerciaux, des enseignes qu'on connaît bien, mais ça peut être aussi d'autres, des hangars qui s'ouvrent et où du plus grand commerce vont s'ouvrir pour de l'épicerie, pour du vêtement, pour tout un tas de choses. Et puis, la dématérialisation, on appelle ça la dématérialisation, c'est le fait que le commerce se passe aussi aujourd'hui beaucoup sur Internet, y compris d'ailleurs la restauration rapide, parce que ça c'est une évolution qu'on a vue pendant le Covid, mais qui a accentué, en fait le Covid a accentué énormément de manières de vivre, de consommer, etc. Et nous on a eu du mal à conduire cette enquête à certains moments, parce qu'il n'y avait personne dans les kebabs, ou dans les sandwicheries, hein, parce qu'on ne travaille pas que exclusivement absolument sur les kebabs. Et donc... ils étaient vides de clients, mais ils étaient pleins de Uber-livreurs, par exemple, soit en extérieur, soit à l'intérieur, et les patrons n'avaient pas le temps de nous parler parce qu'ils étaient dans un rush pas possible, parce qu'on était pile au moment où tout le monde passait sa commande. Et ça, c'est terrible, parce que ça dévitalise complètement les commerces qui deviennent des caisses enregistreuses. Et les espaces publics aux abords ne vivent pas du tout de la même façon parce que c'est pareil, il y a plus personne qui fait la queue devant, quoi. Enfin, qui mange à l'extérieur. L'espace public ne vit plus du tout de la même façon. Donc c'est aussi ça qu'on voit. Et puis une évolution des modes de vie qui font. Ça c'est ce que j'ai pu écrire dans un article précédent sur les cafés justement, où tous les groupes sociaux maintenant se replient sur la sphère domestique. Et les sociabilités sont plus ponctuelles et se font aussi beaucoup à la maison. On consomme beaucoup à la maison.
Je crois qu'il y avait une réaction.
Oui, c'était par rapport à la mixité homme-femme dans les kebabs. Moi, je travaille à la bibliothèque et donc à midi, ça m'arrive d'aller acheter à manger soit sur le restaurant tunisien, soit au kebab le Cappadoce, là. Et en fait, je trouve c'est normal qu'il y ait des hommes. C'est des restaurants ouvriers. C'est les gens qui travaillent, les gens du bâtiment qui sont en train de manger à midi. Donc, c'est normal, quoi. Et moi, je trouve qu'on est très bien accueillis. Enfin, je sens aucun problème de rentrer dans ces kebabs pour manger sur place, etc. Les seuls endroits où vraiment, c'est vrai qu'il faut s'aventurer, c'est les amicales, ça, je suis d'accord. Mais les commerces, que ce soit les boulangeries, les épiceries turques, bulgares, arabes, etc., il n'y a vraiment aucun problème. On est accueillis avec un grand sourire, je dirais même. Enfin, je trouve que c'est vrai que le commerce est un peu monomaniaque, on va dire, mais on a une épicerie, on a une boulangerie, on a de quoi manger le midi. C'est relativement vivant sur la place, moi, je trouve.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vraiment tout à fait ce que j'ai observé. Et c'est vrai que c'est intéressant. Vous disiez, madame, tout à l'heure, il faut voir à quelle heure. Et il y a des jours spécifiques dans la semaine et des heures spécifiques dans la journée où la population se répartit. Donc, c'est vrai que la mixité n'est pas toujours apparente à un instant T. Mais il y a des moments où c'est un peu plus mélangé que d'autres. Notamment le samedi en fin d'après-midi. Après, ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits. Et puis, on va dire que c'est aussi des lieux qui sont des endroits où les gens vont se succéder les uns derrière les autres. Mais c'est aussi vrai de plein d'endroits dans la ville. Il y a des bancs où plusieurs personnes vont stationner, mais à des heures différentes de la journée.
Effectivement, la fréquentation est variable, peut-être en fonction des horaires. Le temps de midi pour les ouvriers et le soir peut-être pour un autre public. Et on le voit, l'espace vit autrement. On le voit même ici, même sur la place voisine, hein, qui est occupée là justement pour le temps de l'apéro ou du repas. On l'entend juste à côté. On va faire une petite illustration sur précisément un petit peu les modes de fréquentation et de praticité, je ne sais pas si on dit comme ça, du kebab, du commerce proximité, avec une petite capsule sonore, un exemple illustration avec bien l'usage des jeunes précisément qu'en font par exemple rue Antoine Durafour à Saint-Étienne, quartier Saint-Roch.
Non mais plus pour préparer sérieusement, un kebab, on se réunit tous autour d'un kebab, hein, c'est familial.
Mais là par exemple, de tout ce que vous avez dit, il n'y a pas un seul qui prend un kebab en fait déjà.
Si, moi je prends un kebab aussi.
Mais en fait...
C'est des tacos, des...
Voilà, le kebab c'est...
Non mais le kebab ça dépend chez qui on voit. Ouais.
Non, parce que moi, par exemple, quand j'avais votre âge, enfin un peu plus vieux, quand on allait au kebab, il y avait kebab. Il n'y avait pas tacos, il n'y avait pas pizza. Y avait...
Ouais, mais, ouais, mais avant kebab, c'était que dans un demi-pain.
Mais de toute façon,
ça a carrément changé. On met du kebab dans un tacos. Ouais. Maintenant, dans tout.
Avant, on disait on va au kebab. Maintenant, on va au Casdal. Parce qu'ils ne proposent plus les mêmes choses. Le pain de kebab, c'est fini depuis qu'on a cramé qui bourrait trop le ventre. Ouais, c'est tout.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire effectivement comment vous choisissez le kebab dans lequel vous allez et pourquoi vous choisissez celui-là plutôt qu'un autre ?
Ce que vous appelez le kebab, c'est le sandwich ou juste la viande de kebab ?
Non, pour moi, un kebab, c'est à partir du moment où il y a une broche.
C'est l'enseigne ?
Non, la broche, vous voyez la broche ?
C'est la broche de kebab qui tourne.
La viande qu'on
a. Mais en même temps, si vous allez dans un... comment ? Oui, pour moi, un kebab, c'est celui qui est un kebab, c'est celui qui a la broche. Sinon,
parce qu'il peut avoir la broche, c'est une viande parmi tant d'autres. Parce que souvent, il y en a, ils ont la broche, mais ça marche pas trop. Mais par contre, il y en a, il est tellement bon qu'il n'y a que la broche qui tourne. Mais nous, la plupart du temps, c'est... Pour moi, c'est kebab, parce que j'aime bien la viande de kebab. Mais la plupart, c'est escalope assaisonnée, des choses comme ça. L'ambiance.
Voilà, l'ambiance, le décor, le chef, les gens qu'on y trouve.
C'est lui de l'Algérie. La Coupe du Monde. Ouais. Mais il se répète, lui, quand même. Il va falloir le cadrer parce qu'il me saoule.
Non, mais pour vous dire, comme on a dit, chaque kebab a sa spécialité. D'ailleurs, par exemple, moi, si je veux prendre un kebab, je ne vais pas le prendre chez n'importe qui. Parce que je sais très bien... Par exemple, on va dire un toit du rafour, chacun sa spécialité. Il y en a qui fait maison, enfin qui fait super bien assaisonné et tout ça, mais c'est pas du kebab, c'est l'escalope. Après, voilà, ça, chacun sa spécialité. C'est-à-dire, moi, si par exemple je vais à Exo Pizza, je vais prendre une calzone, parce que c'est ce que je kiffe. Voilà, c'est ce que j'aime. Et si je vais prendre une pizza, je vais chez Issa. Voilà, c'est... Chacun sa spécialité, en fait. Et chaque jour, ça change. On mange presque jamais au même endroit. Ça dépend.
Donc tu tournes à peu près entre ces trois lieux.
Par exemple, si je vais trois fois chez le même, je vais changer, je vais aller chez quelqu'un d'autre.
Ouais, voilà.
Voilà, pour changer un peu, parce que c'est vrai que si on mange tout le temps la même chose, c'est un peu saoulant. Tout le temps du kebab, ça saoule un peu.
Et parle-nous de l'ambiance.
Et ouais, c'est convivial, c'est manger un kebab entre potes, c'est...
Chez Sofiane.
Ouais, chez Sofiane, comme ça peut être chez Exo Pizza, ça peut être chez n'importe qui. Si on est ensemble, on est réunis, et voilà, on passe un bon moment, c'est tout.
Et qu'est-ce qui...
Oui, alors cet extrait, c'était dans plusieurs buts. Déjà, c'était de dire que c'est pas forcément facile de définir qu'est-ce que c'est un kebab. Et que souvent, le kebab, c'est un peu un terme générique qui sert à désigner un ensemble de sandwicheries populaires, avec une fréquentation jeune et qui peut avoir une présentation un petit peu aguicheuse, je dirais. Parce que, voilà, c'est le côté fast-food, etc. Et puis, il y a réussir à définir la manière dont on y va. Avec qui, pour manger quoi et à quel moment. Et ça, c'est une façon de décrire justement un lieu, mais à travers la manière dont on est avec les autres, quoi. Et aussi la manière dont on est avec ce quartier, parce que les jeunes de ce quartier, précisément, ils y habitent. Ils y habitent, c'est là qu'ils sortent et qu'ils retrouvent leurs amis, qu'ils y vont, traversent quand ils ont fini le travail, parce que tous ces jeunes-là sont des jeunes qui travaillent. Et alors moi, justement, je voulais vous interpeller un peu. Là, on a affaire à des jeunes adultes ou des adolescents qui témoignent. Comment est-ce que vous... Alors, y a des personnes là qui se sont exprimées en disant qu'ils y allaient. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous consommez des sandwichs? Et à quelle fréquence? Pourquoi? À quel moment? Avec qui?
Donc, moi, personnellement, je ne mange pas de kebab. Mais ce n'est pas que j'aime pas le kebab, c'est que, bon, ce n'est pas mon truc. Mais je ne sais même pas quoi vous répondre. Alors. Vous m'avez...
Est-ce que ça vous arrive d'acheter quelque chose pour aller manger sur le pouce?
Non. Je mange très peu, donc
oui.
Le souci, c'est ça.
Mais alors peut-être que par contre, vous pouvez me dire quelque chose de comment vous comprenez, comment ça se passe dans ces endroits-là? Qui vous y voyez?
C'est convivial. Et c'est pratique, c'est pas cher. Voilà, déjà.
Oui, tout à fait.
C'est accessible à tout le monde, quoi.
C'est exactement ce que disent les gens, en fait. Mmh. Hein, oui.
Et aussi, c'est ouvert à des...
Micro, heures, s'il vous plaît.
Ouais. Et aussi, il y a une amplitude d'ouverture qui est intéressante pour tout le monde. C'est vrai que moi, quand on sort de réunion à 9h30 et qu'on peut encore manger ou acheter quelque chose à la récamarée, je trouve que c'est pas mal.
Ou qui peut aussi être problématique. Je pense à des fins de nuit, par exemple, ou soirée tardive. Je pense à Aurel San qui chante ça dans une de ses chansons, par exemple.
Oui, oui. Il a le défaut de ses qualités, en fait. Oui. C'est ça. Effectivement, donc c'est ouvert toute la semaine, tous les jours de la semaine, même le dimanche, alors qu'il y a très peu de restaurants et de bars qui sont ouverts, encore moins l'après-midi. Et que c'est ouvert, effectivement, tard le soir.
Ça peut être un problème, ça, d'un kebab ouvert à 3h du matin à la récamarie, par exemple. C'est une chose qui est existante et...
Alors, on a des avis différents. Il y a Alan qui pense non.
Alan va intervenir après.
Non,
mais Evelyne va devoir quitter le plateau, mais Cyril.
La question de l'ouverture et de l'amplitude horaire est une vraie richesse comme consommateur et un vrai problème pour le voisinage.
Oui.
C'est une vraie richesse pour le consommateur parce qu'effectivement, on sort du ciné à 22h. Le seul restaurant qui est ouvert et qui nous propose quelque chose, c'est le kebab. Et c'est un problème quand il y a, toute une population qui se retrouve à des heures improbables devant le kebab et qui peut conduire à du bruit. C'est pas lié au kebab, c'est lié aux agissements autour du kebab.
Oui, moi j'ai habité la Croix-Rousse quand j'étais étudiante, c'était terrible aux abords des bars.
C'est exactement pareil.
Alors Alan, comment tu vois les choses toi? Ah pardon.
Oui, moi je voulais revenir sur la fréquentation des kebabs. Je vois, nous on est d'origine turque, donc ça nous rappelle notre pays. On aime bien y aller pour se rappeler du pays, quoi. Enfin, sur tout ça.
Alors,
pour beaucoup de gens sur Saint-Étienne, c'est comme ça.
Vous avez complètement raison, madame.
Voilà, c'est un retour au pays un peu.
Et d'ailleurs, vous le verrez sur les photos, parce que généralement, les gens qui tiennent le kebab, ils vont faire des petits clins d'œil comme ça à leurs clients en mettant des petits objets, des photos pour rappeler un peu le pays. Voilà, les gâteaux, le thé, effectivement. Alors, Alan ? Oui, vas-y, dis-nous, tu avais préparé quelque chose.
Ouais, en fait, le fast-food, en particulier les tacos et les kebabs, sont l'un de mes plats préférés, mais je n'en mange pas tout le temps, car je cuisine souvent à la maison avec ma mère, ma sœur, et ça nous arrive de faire des kebabs maison, c'est plus économique. Et ce que j'aime le plus, c'est aller manger des kebabs avec mes potes, quand j'ai de l'argent de poche. Et ce que j'aime dans les kebabs, c'est sa composition, c'est-à-dire les sauces. Surtout, moi, je préfère l'algérienne, car elle est piquante et relève le goût. Et pour ceux qui ne mangent pas de kebab, je les invite à goûter.
Merci, Alan. C'est très, très juste, en fait, tout ce que tu dis. Et le témoignage des jeunes que j'ai recueilli tout à l'heure, non seulement il va dans le sens de ce que tu dis, ils peuvent parler des heures des différentes sauces qui existent et des différentes recettes. Et à la fin, pour te dire, ouais, enfin bon, quand j'ai vraiment envie de manger quelque chose de très bon, je ne vais pas manger un kebab.
Non.
C'est-à-dire que ça reste un lieu distractif, en fait. C'est ludique, c'est pour manger, comme on le disait, de façon pratique, pas cher, rapide. Quand on a fait la fête, ça cale un moment. Et quand on a bien travaillé, c'est aussi effectivement le moyen de se caler.
Alors, Cyril dit que c'était oignon, mais dans la soupe.
Eh oui, oui, oui.
Pas avec la salade.
Sur la place Chavanel à Saint-Étienne, par exemple.
Bon, qui sont de tradition, qu'on trouve encore très régulièrement.
Mais je suis kebab également, hein. Sauce blanche, sauce tunisienne aussi, elle est épicée, je te la conseille, elle est pas mal. Et je suis kebab, mais de plein de manières, effectivement, à emporter, à livrer, et puis le dimanche soir avec mes enfants, quand je sors du cinéma, eh ben, je vais manger un kebab, c'est un moment un peu familial. Donc c'est des rituels hein, qui s'installent, et puis le kebab fait partie, pour ceux qui souhaitent et qui peuvent être touchés par cette culture-là, eh ben, fait partie de notre culture aujourd'hui. Elle est rentrée dans le corps.
Oui, et alors en plus, elle est rentrée dans le commun en se francisant beaucoup. Parce que quand on regarde l'évolution du kebab un petit peu à travers le monde, en France, c'est l'un des rares endroits, peut-être en Espagne aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont un peu comme ça, mais c'est le seul endroit où on mange un kebab assis à table, parce qu'il y en a quand même beaucoup, dans lesquels il y a des tables et des chaises, ce qui n'est pas du tout le cas en Allemagne, par exemple. Donc c'est pour dire que ça devient un produit vernaculaire, un produit de chez nous, finalement.
Oui, moi, c'est personnellement aussi, par exemple, une pratique que j'ai de manger le kebab assiette, par exemple,
voilà.
De plus en plus, au-delà du sandwich.
Moi aussi.
Cyril aussi. On va poursuivre avancer dans l'émission. Est-ce que tu voulais
Parce qu'en fait,
peut-être boucler cette partie.
Non, je voulais faire une petite transition.
Consommation, transition.
Voilà, bien parce vu. Que c'est beaucoup une question de représentation et on associe beaucoup le kebab à la malbouffe, alors que finalement, quand on regarde ce qu'il y a dedans, ben, c'est pas forcément de la malbouffe, c'est du pain. De la viande et des crudités et des sauces. Donc tout est une histoire de dose. Alors après, il y a quand même toute la dimension, mais on ne va pas rentrer là-dedans, mais toute la dimension, comment dit-on, agroalimentaire, où c'est beaucoup de la nourriture industrielle, sauf quelques kebabs qui font eux-mêmes leur pain, qui font eux-mêmes leurs frites ou qui font eux-mêmes leurs broches. Mais ils sont quand même très rares et la plupart des broches sont importées d'Allemagne. C'est encore autre chose. Donc il y a une espèce d'image, de représentation de ce que c'est que le bien manger et puis ce que c'est que de bien se comporter aux abords de ces lieux de fête, ces lieux distractifs. Et puis, il y a le savoir, comment dire, l'esthétique de la devanture, de l'extérieur. Et on a beaucoup de commerçants qui s'improvisent un petit peu dans ce genre de commerce, parce que c'est relativement facile à monter. Je dis relativement facile, parce qu'en fait, il faut tenir. Hein. C'est un métier qui est très, 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 très difficile. Mais monter un commerce, ça n'est pas donné à tout le monde. Et donc, du coup, il faut savoir se présenter sur l'extérieur. Et puis, surtout, on peut avoir des intérêts. Une stratégie commerciale qui est un peu, comment dit-on, très volontariste, quoi. Très, donc on va chercher des couleurs flash, des lumières qui se voient de loin, etc., parce qu'on cherche à attirer le client. Bon, eh bien, c'est de ça, en partie, dont on va parler dans l'extrait à venir avec l'élu à l'urbanisme de la ville de Bois.
La ville de Bois en tant que telle, elle est très particulière en fait, puisque malheureusement pour nous, dans la plaine du Forêt, c'est une des communes les moins dynamiques. Pourquoi ? Parce que on est loin d'autoroute, voilà, et fin des années 70 et pendant toutes les années 80, il y a eu, suite au deuxième krach pétrolier et aux différentes crises économiques qu'on a traversées, toutes les grosses entreprises qui généraient beaucoup d'emplois sur la commune, elles ont fermé les unes après les autres. Notamment Moisy-Gauchon Industrie, et on est sur une commune qui est très paupérisée en fait. Du coup, ça a conduit au fait que petit à petit le centre il périclite, et il faut vraiment qu'on travaille pour changer l'image de la commune en fait. Le plus facile et le plus rapide qu'on a, même si c'est pas le moins onéreux, c'est la requalification des espaces publics, parce que si vous arrivez à rendre votre commune belle, les gens ont de nouveau envie de venir y habiter. De facto, si les gens viennent y habiter, vous avez des commerces qui viennent se réinstaller, et voilà quoi. Et on essaye d'enclencher cette spirale là. Donc c'est dans cet état d'esprit que l'aménagement de la place Siveton et des berges du Lignon ont été réalisés, puisqu'avant à cet endroit là on avait un grand parking routier où les camions venaient se garer pour passer la nuit, voilà. Et puis on avait une dizaine de maisons totalement à l'abandon dans le prolongement du kebab, justement. Celles-là, on les a rachetées pour les démolir, pour recréer de l'ouverture, un mot de l'ouverture. On s'entend, hein, pour créer une respiration architecturale, parce que en termes d'ouverture, derrière, vous avez la falaise, donc c'est très limité comme ouverture, mais quand même, ça donne une respiration dans le linéaire qui est intéressante, quoi. Alors moi, en tant qu'élu, j'ai deux visions des kebabs. Vous avez des kebabs comme le Casdal, où les gens ils savent qu'ils font de la restauration rapide, mais ils se présentent comme un restaurant. Aujourd'hui, vous passez devant le Casdal, vous n'avez pas une façade criarde avec des affiches sur le côté où vous avez les kebabs en photo, le prix dessous. Ça change l'image de ce type de restauration-là. Alors, je dis ça pour les kebabs, ça pourrait être la même chose pour une pizzeria ou pour un vendeur de tacos ou voilà, mais oui, il y a vraiment pour moi ces deux aspects-là, c'est vraiment deux types de restaurants différents. Et donc le Casdal, d'un point de vue esthétique, ne jure absolument pas dans la commune, il s'intègre bien dans l'urbanisme. Il bosse bien, il fait de la bonne bouffe, il avait besoin d'étendre un petit peu son activité. Nous, on faisait l'opération à côté de démolition, de création de stationnement, de réouverture de cette falaise pour la rendre visible. Et donc, tout naturellement, ils se sont rencontrés avec la mairie. Et puis, t'as besoin de combien de surface ? Nous, on a acheté à côté. Voilà, si tu veux t'étendre, tu peux le faire dessus. Voilà, nous, ça, en plus de ça, comme je vous le disais tout à l'heure à propos de la pizzeria, ça crée de l'activité sur cette zone-là. Il n'y a rien de pire que de faire un aménagement et que les gens ne se l'approprient pas et que on gère de l'argent public. Si vous faites un aménagement pour vous faire plaisir mais que la population ne s'en sert pas, vous avez dépensé de l'argent pour rien, quoi.
Alors en fait, si je suis allée à Bois, c'est précisément parce que j'ai vu ça et que mon hypothèse de sociologue travaillant dans une école d'architecture, c'était de me dire, est-ce qu'on pourrait pas inverser un peu le regard et ces établissements qui parfois arrivent dans des quartiers qui ont une difficulté avec leur commerce à ouvrir un commerce et à le faire tenir, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose et est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur cette dynamique-là pour inverser un peu le processus? Et il se trouve qu'effectivement, dans le cadre de la transformation urbaine, mais ça peut être aussi dans le cadre de la dynamisation commerciale très directement, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de voir la place qu'ils peuvent tenir en se disant simplement que c'est un type de commerce qui aujourd'hui marche et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour avancer.
Alors, concernant la Ricamarie, sur la Ricamarie, ce style de commerce vit spontanément.
C'est ça.
Il n'y a pas forcément besoin de l'action de la commune. Les commerces pour lesquels il y aurait besoin d'investir, c'est justement des commerces traditionnels, de boucheries traditionnelles, qui manquent aujourd'hui dans les territoires.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une spontanéité, une dynamique qui va seule, qui n'a pas besoin de vous. En revanche, là, ce qui s'est passé à Boin, ce kebab, il n'avait pas besoin de la mairie, parce qu'il vivait bien où il était, sauf qu'il vivait tellement bien qu'il manquait de place. Et là, la mairie a pu entendre ce commerçant, qui par ailleurs est très investi dans sa ville, dans sa mairie, etc., et qui demandait à pouvoir s'étendre et à faire une grande terrasse, etc., et qui proposait de poser une véranda, etc. Et on aurait pu, d'autres auraient pu répondre « Oh non, mais c'est bon, le kebab, ça va, il marche très bien tout seul, on va aider les autres. » Sauf que ce qu'ils ont compris, c'est qu'en aidant, en l'aidant à se développer et à s'installer dans le respect de l'environnement qui était le sien, ils ont pensé toute une entrée de ville en même temps et ils ont favorisé l'installation d'autres commerces plus traditionnels ou plus novateurs, parce qu'il y a un petit magasin qui fait librairie, jeux, pâtisserie, etc. Vous voyez l'idée?
Oui, alors pour répondre, alors ça ne va pas du tout dans votre sens. On avait eu une sollicitation d'un kebab de la Ricamarie pour installer une terrasse extérieure. Les expériences de terrasse extérieure, mais c'est lié à la réalité de la vie municipale, sont investies par des jeunes avec une forme d'attitude très bruyante, à des heures improbables,
voire des incivilités, j'imagine,
et avec du trafic de stupéfiants au milieu. Mmh. Donc ces expériences-là, malheureusement, et je le regrette, on ne peut pas les faire vivre actuellement. Je ne désespère pas, sur la Ricamarie. Il y a peut-être des perspectives pour demain, il y a peut-être à imaginer, à essayer, d'autant plus que c'était sur un espace qui était assez contraint, sur un trottoir, donc on avait un peu bloqué l'idée, au grand regret du commerçant. Mais on avait pris cette décision-là parce que on sait ce qu'on doit gérer derrière.
Mais vous avez tout à fait raison, je comprends tout à fait ce que vous dites, parce qu'en fait, le problème de ce genre de problème, il y a des périodes de transition, en fait. Ce dont on se rend compte, c'est que si c'est un commerce isolé qui a sa terrasse et qui ça fait un appel d'air considérable, et du coup ça ne se gère plus correctement. Mais quand il y a une dynamique qui est un peu plus collective, qui est un peu plus générale sur un quartier, ça se fait pas tout seul. Il faut que ça s'accompagne de tout un tas de choses autour que vous êtes déjà en train de travailler.
Alors, c'est vrai qu'on a, je suis pas rentré dans la précision, mais le centre-ville de la Ricamarie fait l'objet d'une grande opération de renouvellement urbain avec Saint-Étienne. Alors, dans le renouvellement urbain, il y a la question du peuplement, il y a la question de la rénovation urbaine, mais il y a également la question du tissu commercial. Donc, il y a un regard, une vigilance. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. On est prudent sur l'avenir. On peut imaginer que des élans nouveaux puissent naître avec de nouveaux investisseurs. Mais dans l'immédiat, on est plutôt prudent dans les démarches parce qu'effectivement, le centre-ville est investi par des gènes de bruit, par des jeunes, et puis parfois, sur certains espaces, par du trafic de stupéfiants, et c'est pas très souhaitable de le faciliter dans la...
Oui, je comprends. Voilà.
Donc on est très très prudent dans ces démarches-là. Je rappelle, et ça reste marginal, je le dis, mais il y a des études sur le kebab, sur les kebabs, sur certains kebabs, qui sont là, qui prospèrent grâce effectivement à un trafic qu'il y a autour. Alors ça ne veut pas dire que le kebab trafique, ça veut dire que les jeunes qui sont dans le trafic viennent consommer dans les espaces qui leur sont ouverts à des heures possibles. Ça s'est passé à la Ricamari, on a cette expérience-là, donc on préfère aujourd'hui, ça ne veut pas dire demain, mais aujourd'hui être prudent quant à l'installation de terrasses ou d'espaces un peu plus agrandis. L'espace un peu plus agrandi, après on a cette réalité-là, c'est que la ville de la Ricamari, c'est des petits espaces avec des habitations au-dessus, les commerces. Donc il y a cet équilibre-là à trouver entre les gênes occasionnés par l'exploitation commerciale et les habitants qui aspirent légitimement à un peu plus de calme, notamment dans un centre-ville.
Est-ce que ça veut dire que l'idée un peu générale, là, si elle est mal formulée, je ne sais pas, mais est-ce que c'est que les kebabs seraient plutôt des espaces plutôt négatifs pour le centre-ville de la ville?
Non, je redis ce que je disais. Non, c'est des espaces qui ouvrent un dynamisme, qui ont leur propre dynamisme, qui arrivent à très bien vivre dans des villes comme la Ricamari. Mais il y a malheureusement, il y a les consommateurs qui sont satisfaits. À certaines heures, il y a une forme de consommation qui naît dans certains espaces, et notamment à la Ricamari, et c'est pas souhaitable de les faire prospérer. C'est de faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer dans cette pratique tardive de consommation, quoi.
Alors en fait, vous touchez du doigt une autre problématique qu'on connaît bien en urbanisme et qui touche en fait autant les grandes capitales européennes de tourisme notamment que la petite ville de la Ricamari. Donc on parlait de la dévitalisation du commerce en centre-ville, et il y a la question de la vie nocturne, ce qu'on appelle le noctambulisme, qui se développe notamment dans des zones commerciales où ça pose autant de problèmes. Il y a un quartier sur lequel j'ai travaillé aussi à Madrid, qui est un quartier ancien, assez typique, etc., qui fait l'objet de démarches de gentrification, etc., mais où ils ont des problèmes considérables parce qu'il y a des touristes qui arrivent du monde entier pour faire la fête à 3h du matin dans les cafés qui sont en dessous. Et effectivement, il y a des conflits d'usage, on appelle ça comme ça, entre les riverains et les commerces qui sont en bas et qui pourtant font que la ville vit. Donc c'est extrêmement compliqué.
C'est un équilibre très fragile. C'est ce que je vous dis, et je le dis de manière très prudente. On en est là aujourd'hui, on ne désespère pas demain.
Oui, parce que certaines études ont montré, c'est pour ça que je me permets d'insister un petit peu et que c'est mon travail aussi qui va dans ce sens-là. C'est pas uniquement pour défendre le kebab, c'est pour défendre une espèce de... Essayer de comprendre en fait que ce sont... Parce que c'est pas forcément les kebabs, c'est les épiceries de nuit, c'est les tabacs, c'est les boîtes de nuit, etc., etc. C'est pour ça que je parle de cet univers de la nuit et de noctambulisme. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que ça soit le sentiment d'insécurité, que ce soit les incivilités elles-mêmes, que ça soit la relation homme-femme dans l'espace public, etc., on se rend compte qu'en fait, il y a quand même un équilibre effectivement à trouver de manière à ce qu'il y ait... Si la rue est vide, elle est insécure. Alors que si elle est occupée, de manière dosée, elle n'est plus insécure. Donc il y a ce dosage, effectivement, à trouver.
Alors, la ville de la Ricamari n'est pas vide. Il y a plutôt une vraie vitalité. Jusqu'à 22h, minuit, hein, elle existe, cette vitalité-là. Hein, Alan hoche de la tête.
Tu confirmes, Alan?
Il y a une vraie vitalité, c'est une ville qui est très investie par la jeunesse, c'est une ville très jeune, c'est une ville qui a envie, c'est une ville qui a de l'espoir, et tu as raison, Alain, de souligner également sur l'ouverture sur les écrans de nature qu'il y a autour, cette situation non anxiogène, puisqu'elle est suffisamment ouverte, aérée. Il y a plutôt des atouts pour demain, c'est une ville culturelle, hein, je le dis souvent aussi, parce qu'on ne mesure pas, mais il y a des douleurs, et ces douleurs, il faut les gérer, et c'est des questions d'équilibre. Et effectivement, à partir de minuit, il y a encore de la vie après minuit. Et cette vie, elle met en difficulté l'équilibre général.
Oui, il faut la canaliser.
Il faut la canaliser. Il faut faire en sorte qu'elle se vive. Et elle se vive dans des espaces très précis, marqués par des trafics de stupéfiants. Donc là, ça sera toujours insécure.
Alors moi ça me pose une question de, c'est aussi une question de vivre ensemble. Et alors sur l'aspect commercial, on connaît les comment on appelle ça, les pôles de commerciaux, enfin pôles pas pôles, les associations de commerçants quoi, finalement, qui sont aussi représentatifs ou interlocuteurs possibles auprès de d'institutions et de municipalités par exemple. Est-ce que c'est le cas d'une dynamique telle par exemple sur la Ricamarie et qui serait à intégrer dans des moments aussi de vie collective, je sais pas, par des fêtes, une fête de la musique par exemple, est-ce que les commerces sont associés, est-ce qu'il y a ce travail?
Alors rapidement, il n'y a pas de d'association de commerçants. Elle n'arrive pas à vivre, elle est, parce que l'activité commerciale, je vous le disais tout à l'heure, n'est pas homogène.
Oui, elle est très composite.
Elle est très composite. Donc elle se fédère pas, elle se construit pas, elle se structure pas aujourd'hui. Mmh. On peut espérer que demain ça puisse renaître, mais là aujourd'hui on est dans une difficulté de structuration. Mmh. Comme dans de très nombreux quartiers politiques de la ville, puisqu'on évoquait, on a des difficultés à avoir des personnes ressources qui structurent les espaces. Mmh. Dans les associations sportives, militantes de manière générale, mais c'est même valable dans toute la société, et particulièrement dans les zones périurbaines, parce qu'on a les zones périurbaines, les personnes qui sont un peu les militants, les ressources du territoire, sont des personnes qui investissent pas que ce territoire, puisqu'ils ont la mobilité, ils vont sur d'autres espaces, ils vont au cinéma Saint-Étienne, ils bougent, donc ils investissent pas spécialement la commune qui est la leur, et donc du coup on a du mal à structurer tout ce qui est vie associative locale.
Et puis parce que la vie associative est vieillissante aussi.
Et la vie associative est vieillissante. Voilà. Et les automatismes de vie associative ont tendance aujourd'hui à lier à justement cette vitesse de consommation de vie, ce zapping permanent, a tendance à s'essouffler sur nos territoires. Mmh. Et parfois, parce que c'est dur.
Oui.
Parce que j'ai tendance à vouloir être optimiste, à impulser un peu un dynamisme, mais parfois c'est dur. Mmh. C'est dur d'être confronté, de porter des jeunes, de les accompagner, et puis le lendemain, que ces jeunes-là ne soient pas fidèles aux valeurs qu'on a essayé de leur transmettre. Mmh. C'est parfois dur, et dans la vie associative, on est très fréquemment confronté à cette réalité-là. Je pense notamment aux militants sportifs qui portent les enfants et qui voient le lendemain ces enfants-là, même qu'ils ont accompagnés, ben, errer et être en galère dans le centre-ville.
Mais moi, j'ai vu de la difficulté pour certains commerçants aussi qui ont besoin d'avoir des amplitudes horaires pour rentrer dans leurs frais. Et qui ont du mal à gérer ce qui se passe aux abords du commerce et ils souffrent beaucoup d'être rendus responsables de ça parce qu'ils
peuvent. Mais se pose une vraie question à partir de tout ça, c'est la structuration de notre société.
Oui.
C'est la question de la République. Et là, on ouvre le débat. Mmh. Ouais. Et là, il y a une vraie question.
Et puis la question de la paupérisation, de la précarisation toute une couche de la population.
Oui. Alors, pour quasiment terminer, sur cette question-là, ouais, pour rebondir sur ce point, est-ce que, pour exemple, un dispositif tel que celui que vous évoquez dans le cadre de la politique de la ville, comme je pense que c'est l'OPERU que vous évoquiez, est-ce que cela peut permettre de baliser et de tendre vers peut-être cet équilibre et de donner les moyens, en tout cas, de réalisation?
Alors, moi, je ne veux pas faire rêver. La ville de la Ricamarie, elle est cette histoire-là. Mmh. Elle est ce mélange-là. Et c'est notre richesse. On ouvre des perspectives qu'on n'imagine pas à l'ensemble de la société. Moi, j'en suis persuadé. Parce qu'il y a une expérience de vie commune qui s'ouvre. Les gens se rendent compte, les visages se dialoguent. Et puis, la première porte d'entrée, souvent, dans le processus migratoire, c'est le logement dégradé de centre-ville, qu'on essaye de retaper, qu'on essaye de faire en sorte, et tout en continuant à accompagner la population qui est en difficulté, en abandonnant pas les deux points, dans l'idée d'essayer de recréer un peuplement et de réfléchir sur la globalité, sur la question du logement, sur la question de la propreté, du rapport à l'école, du rapport à la société, du rapport au commerce. Enfin, toutes ces questions-là sont portées dans l'opération de renouvellement urbain. Mais c'est l'ensemble qui fera la richesse. Je disais la place de l'école aussi. Mmh. Parce que dans la place de l'école, le dédoublement des classes, c'est une très bonne chose. Mais si on enlève le dédoublement des classes et que parallèlement, on supprime l'accueil des enfants de moins de 3 ans dans les écoles, alors que c'est leur apprentissage de la langue qui est en jeu, eh ben, on marche sur la tête. Ben, c'est toutes ces questions-là qui sont posées. C'est éminemment une question de république, une question de fraternité, d'égalité. Et moi, pour juste parler au titre du CCS, du Centre communal d'action sociale, on est en grande difficulté sur l'accueil d'immigrants. On a des personnes qui vivent la Ricamarie depuis 16-17 ans qui ont leurs papiers refusés,
qui ne peuvent pas travailler, qui sont en galère, qui embolisent les services sociaux, qui ne peuvent pas alimenter la société de manière générale, et qui ne partiront pas. Leurs enfants sont nés, leurs parents sont enterrés sur la Ricamari. Ils ne partiront pas, mais sous prétexte d'un fantasme, j'allais dire, collectif, eh ben on abîme des territoires. Et on les abandonne.
Et des individus.
Et des individus, bien évidemment. Mais les individus, c'est ceux qui font vivre les territoires. Et ça, c'est tragique. D'où la notion de république. Il y a un vrai travail sur l'accueil, sur la fraternité, sur l'égalité. Donc tout le travail sur l'égalité. Et également sur la question, j'allais dire, de la liberté.
Alors moi, je voulais juste revenir sur l'opération au PRU. Donc moi, je suis travailleur social de la mairie. Et c'est un vrai projet très ambitieux et qui, à mon avis, j'en suis convaincue, moi, portera ses fruits. Et en effet, les commerces vont pouvoir se développer autrement. Vous parliez de terrasses. Les kebabs sur la commune ne peuvent pas avoir de terrasse, pas comme elle est configurée actuellement, la ville. C'est un grand axe, c'est étroit, c'est pas possible. Mais tout le projet qui a été mené par l'équipe municipale, quand il va aboutir, je pense qu'on aura une autre Ricamari et on va repasser sur autre chose. Moi, j'y crois énormément dans ce projet.
Mais moi, j'y crois. Mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas le... Je suis complètement d'accord avec toi, tu imagines bien. Sinon, je ne m'engagerai pas et je ne porterai pas ce projet à bras-le-corps. Mais je disais, il ne faut pas rêver, ça ne changera pas la ville dans sa globalité. C'est-à-dire que la ville restera cette ville périurbaine avec une réalité socio-économique qui sera en difficulté. Mais en tout cas, on aura du mieux vivre et on aura peut-être un attrait avec un nouveau peuplement des personnes qui pourront être ressources autrement.
Alors, en fait, je suis très contente de la tournure que prend cette table ronde parce que vous êtes complètement dans la grande difficulté qu'on a et qu'on enseigne à nos étudiants aussi dans les écoles d'archi, c'est que elle est où la solution ? Elle est du côté de la prise en charge sociale ou elle est du côté de la prise en charge architecturale, urbaine ? Eh ben, c'est vraiment de tenir les deux ensemble. Alors moi, j'aimerais bien, on va terminer, et je voudrais qu'Alan, tu nous dises comment tu aimerais, enfin je sais pas, mais quel est ton, comment tu vois les choses évoluer à la Ricamari, et est-ce que tu penses qu'il y a certaines choses qui devraient se faire, se développer, de quoi tu parles avec tes copains par exemple?
Moi, je parle pas beaucoup de choses avec mes copains sur la Ricamari, mais je trouve que la Ricamari est une bonne ville maintenant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses dedans, il y a beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup de kebabs, il y a beaucoup de restaurants. Je veux dire que la ville de la Ricamari, elle est belle comme elle est aujourd'hui. Et s'il y aurait plus des améliorations à faire dans les jours suivants, ben, il n'y aurait pas beaucoup de choses parce que je trouve que...
Toi, tu l'aimes comme ça?
Ouais, je l'aime comme elle est.
Bah, je trouve que c'est chouette, moi, que les jeunes de la Ricamari s'y trouvent bien. C'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe.
Ça fait du bien entendre ça, monsieur le maire. Très bien. La Riclavie, pour reprendre le slogan bien connu dans notre région. On
Alors
va devoir terminer.
Dire, oui, juste Catherine. Dire, Lionel, qu'il faut venir à l'expo parce que franchement, voilà. elle est très. Les images de Sandrine sont magnifiques et Dan fait un travail d'immersion auprès des gens qui est vraiment très chouette.
Voilà, support audio, support photo.
Ah oui, à ne pas manquer Abdel Sefsaf à la Ricamari avec Ulysse. Ulysse de Taourirt. C'est très très beau.
Qui travaille sur ces questions-là depuis longtemps.
Bien connu dans notre
bien sûr. Et en tout cas, l'exposition visible tout le mois d'octobre.
Tout le mois d'octobre.
Du 4, les du précisions, 4 à la fin du mois.
Voilà, les précisions des dates de l'exposition et des dates de projection seront sur le site de la médiathèque avant la fin de la semaine et sur le site de Dio.
Voilà, sur le site de la médiathèque.
Et on encourage Radio Mondaine, évidemment.
À venir ici. On redonne l'adresse, c'est Place Raspail. À la Ricamari, bien sûr. Merci à vous, la médiathèque, Sylvain, Catherine, de nous avoir accueillis pour cette table ronde.
Merci beaucoup.
Nicolas de Radio Ondaine, bien sûr. Merci la ville. Merci Alan. Merci aux habitantes et habitantes d'être venus ici. On écoute, allez, pour boucler, alors on tire peut-être un petit peu par les cheveux, mais c'est un groupe qui nous vient de Hollande, mais qui travaille le répertoire, on va dire, classique
Vintage, on va dire, on dit comme ça aujourd'hui. Ouais, voilà. Le répertoire vintage de Turquie, voilà, c'est Altıngün qui a fait un succès fou au mois de juillet à Saint-Étienne, mais qui sont en train de faire un tabac avec ce titre qui est de 2018 et qui est un peu notre mascotte à l'équipe du film là.
Et encore plus tiré par les cheveux, on connaît les Döner Kebab, mais Gökhe Dönya, c'est le titre là de Altıngün qu'on écoute en guise de générique de fin de cette émission. Merci.
Merci. Au revoir. Koca dünya gam yükümüzsün Söyle söyle fani dünya dert küpümüzsün Yeah.